Ah, l'audace. Certains en débordent, d'autres en manquent cruellement. Pour être audacieux, il faut être courageux. Mais aurais-je l'audace de devenir audacieux?
Soyez audacieux et osez venir essayer le Nissan Juke en motorisation essence ou hybride durant les portes ouvertes. Prenez le volant du Nissan Juke à partir de 189€ par mois.
Nissan.
Juke Accent 9, LLD, premier loyer 3500€, puis 36 loyers 289€ jusqu'au 31 janvier sur stock disponible si accord direct, détail nissan.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
L'archéologie de la Grande Guerre n'a que 30 ans et naît de la découverte de la sépulture d'un homme célèbre, non pas celle de quelques grands militaires, mais d'un écrivain, celui-là même qui fut l'auteur du Grand Mône, Alain Fournier. Depuis cette fouille en 1991, on évoque inlassablement Alain Fournier, tombé le 22 septembre 1914, un an donc après la parution de son chef-d'œuvre, sans toutefois préciser que sa tombe n'est pas une tombe, mais une fosse, sans mentionner ses 20 compagnons d'armes, fauchés le jour même et dont 18 sont désormais identifiés. C'est par la violence de masse, notamment celle de 1914-1918, que l'archéologie contemporaine a réussi à s'implanter dans le paysage scientifique et patrimonial français, certains chercheurs se spécialisant même sur cette thématique. Depuis 3 décennies, bien du chemin a été fait et reste à entreprendre. Pour en parler, Michael Landolt, bonjour.
Bonjour.
Michael Landolt, archéologue en Alsace-Lorraine, vous avez dirigé la fouille de la galerie allemande du Kilianstollen dans le Haut-Rhin. Vous œuvriez au sein de la DRAC Grand Est, mais êtes depuis peu promu directeur du Centre européen et du Mémorial qui gère l'ancien camp de concentration du Struthof. Nous en avions parlé, voici tout juste un an, avec Juliette Granger. Merci en tout cas d'être en duplex des studios de France Bleu, Lorraine Nord. Michael Landolt, revenons à la Première Guerre mondiale avec un mythique champ de bataille. Le 21 février 1916 débute en Lorraine la bataille de Verdun. 10 mois de violence qui, on le sait, bouleverse et remodèle totalement le paysage. Que devient ces 10 000 hectares une fois la paix revenue?
Alors juste après la guerre, les premiers mois et les premières années ont suivi la Première Guerre mondiale, il y a une zone rouge qui a été définie, sur une zone où les villages étaient détruits, où les terrains étaient complètement bouleversés par le champ de bataille, des terrains où aussi il y avait beaucoup d'armes, beaucoup de munitions qui refaisaient surface, où aussi beaucoup d'hommes, des milliers d'hommes avaient disparu. Et on a sanctuarisé ces espaces en plantant une forêt. Donc pour ce qui concerne Verdun, la grande forêt de Verdun qui a été implantée, une forêt artificielle qui a été plantée sur cette zone.
On aurait eu 36 millions d'épicéas, mais aussi des plantes liées justement à la guerre, des plantes intrusives.
Alors il y a des plantes qui réapparaissent, des anciens villages, des anciens vergers qui étaient là avant la guerre, qui vont ressurgir au milieu de cette forêt plantée. Mais on va aussi avoir des espèces qui ont été apportées par l'homme pendant la guerre. On pense à des éléments par exemple amenés par les décorces, des aliments qui ont été apportés, des fruits secs, des graines qui ont été apportées par les hommes, ont été jetées par les hommes dans les cantonnements et qui ont repoussé. Et qui, en fait, on a une archéologie vraiment de ces plantes qui permettent d'identifier la présence de certaines troupes qui proviennent de certaines zones géographiques. Et vraiment, cette forêt, elle a préservé les vestiges. Ils sont conservés grâce à cette forêt.
En tout cas, le terrain a été, on peut le dire, fossilisé. La nature a repris ses droits au point d'effacer peu à peu les traces de cet épisode.
Alors, la forêt de Verdun arrive à maturité aujourd'hui. Donc, quand on a planté les arbres, c'est pour une exploitation. C'est de la sylviculture pour en avoir une utilisation pour l'homme. Donc aujourd'hui, on arrive à une forêt qui est exploitée par l'ONF, l'Office National des Forêts, et la gestion de cette forêt doit prendre en compte ses vestiges. Le Service Régional de l'Archéologie du ministère de la Culture et l'ONF travaillent main dans la main, ensemble, à identifier des secteurs où les vestiges sont très bien conservés et ne pas détruire en implantant par exemple des cloisonnements, des chemins de débardage ou en passant peut-être le bulldozer pour installer une zone de stockage. Ces choses-là sont évitées, on définit des zones et on travaille ensemble pour préserver pour les générations futures ces traces.
Alors moi, j'ai souvenir d'Antoine Pro et d'une discussion, bien sûr, avec lui, pour qui le lieu de mémoire devait être la nécropole et non pas le champ de bataille. Une position que, j'imagine, vous ne partagez pas forcément, vu que vous êtes archéologue.
Alors c'est vrai que nous, les archéologues, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les espaces. La mémoire, c'est pas notre travail fondamental, même si on peut pas nier qu'en faisant de l'archéologie des conflits contemporains, il y a de la mémoire qui va apparaître, ça c'est indéniable. Mais pour nous, archéologues, c'est les traces, les tranchées, les abris, les cantonnements, tous ces éléments qui ont fait l'histoire de ces hommes qui ont combattu sur ce champ de bataille. Les cimetières que nous avons aujourd'hui sur le terrain sont nés de l'après-guerre, nés de regroupements, de petits cimetières qui ont été regroupés après-guerre et qui ont été régulièrement restaurés, refaits, les croix ont été changées. Les croix qu'on a à Douaumont aujourd'hui, c'est pas les croix de Douaumont dans les années 1920-1930. Elles ont été remplacées à plusieurs fois et pour les plus récentes, il y a quelques années.
Ah, on peut dire aussi que la nécropole, elle est classée, hein, classée monument historique, voire plus, alors que le champ de bataille, il est souvent juste protégé.
Alors récemment, l'actualité internationale, il y a l'UNESCO qui, à Riyad, il y a quelques semaines, vient de protéger 139 cimetières des différents belligérants sur le territoire belge et français. Au titre de l'UNESCO, c'est une grande première de protéger au titre de l'UNESCO des vestiges de la mort de la guerre. C'est vraiment une nouveauté, une nouvelle perspective qui s'ouvre de protection dans les années à venir. Et les champs de bataille, ils sont protégés soit au titre de monuments historiques parfois, ou de sites inscrits ou classés au titre de la loi de 1930, c'est-à-dire c'est une loi qui est née après la Première Guerre mondiale. Pour préserver, on s'est rendu compte que le monument historique, c'est plutôt un monument, quelque chose d'assez réduit sur une surface, un château, un bâtiment, quelque chose qu'on arrive à délimiter de manière assez petite. C'était pas adapté pour le champ de bataille. Donc on a inventé un nouveau type de protection après la guerre, cette protection au titre des sites, dans les années 30, pour préserver des grands champs de bataille en Alsace, en Lorraine, dans le nord de la France.
Michael Landolt, parlez-moi des collectionneurs de militaria. Ceux-ci s'adonneraient à des recherches clandestines et même des fouilles ?
Le ministère de la Culture, depuis quelques années, a pris cette problématique en main de manière assez importante. Et pour ce qui est du Grand Est, par exemple, on mène vraiment d'une politique assez importante sur la question du pillage. Alors, effectivement, depuis une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, ces champs de bataille voient l'arrivée de personnes équipées de détecteurs de métaux, de sondes, qui vont rechercher des endroits où ont vécu les soldats, des tombes de soldats, vont profaner des sépultures, vont piller des dépotoirs de cantonnement, rechercher des objets pour des collections privées ou pour la revente également, des objets qui valent de plus en plus cher, avec maintenant, depuis 100 ans, c'est des objets qui ont pris une valeur assez importante. Et ces vestiges de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale sont vraiment rentrés dans le champ de l'archéologie. La définition de l'archéologie en France, c'est tout ce qui concerne les traces de l'humanité et de son environnement. Donc la Première Guerre mondiale rentre, et la Seconde rentre très bien dans cette définition du Code du patrimoine.
L'archéologie, donc, c'est juste hier.
Exactement. Donc on a des pays qui ont défini l'archéologie à 100 ans, la France, c'est pas le cas. Et pour réaliser une fouille archéologique, il faut une autorisation. Il faut une autorisation du ministère, hein, l'autorisation de fouille. On peut pas réaliser une fouille sans aucune problématique scientifique.
Michael Landolt, vous avez été confronté à ces pilleurs ?
Dans le cadre de mes anciennes fonctions au sein de la Direction régionale des affaires culturelles, Grand Est, effectivement, j'étais responsable de ces aspects. Et on a pu, avec l'aide des douanes, avec l'aide de la gendarmerie, avec l'aide de la police, mener de nombreuses perquisitions pour faire cesser certaines de ces activités sur le champ de bataille.
Et qu'est-ce que l'on trouve chez ces gens ? Des obus ?
Des objets dangereux déjà, hein, il faut pas le nier, des obus qui sont encore actifs, parfois des obus chimiques, parfois des grenades, et on retrouve énormément de bouteilles, d'objets de la vie quotidienne des soldats, des plaques de soldats, ça aussi c'est quelque chose qui est très recherché, des plaques d'identité. On vole une identité à un soldat, on récupère juste sa plaque, on laisse le squelette en place et on pourra plus l'identifier si quelqu'un le retrouve.
Et donc plus le réenterrer par la même occasion. On aurait quoi 80 000 soldats disparus à Verdun, c'est à peu près ça ? Est-ce que l'on en retrouve régulièrement ?
On en retrouve régulièrement, effectivement, dans le cadre des fouilles archéologiques, des diagnostics, des fouilles qu'on réalise hein, sur tout le champ de bataille, de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse, mais aussi de manière fortuite, hein, dans le cadre de travaux parfois qui n'ont pas été suivis par les archéologues. Mais dans de très nombreux cas, ces découvertes sont liées à des pilleurs qui vont laisser un sac poubelle à côté d'un chemin, qui vont laisser un tas d'ossements, un promeneur va découvrir un tas, et on peut dire qu'une grande part est quand même liée à ces pilleurs de tombes.
Bien sûr, moi j'ai souvenir du fameux Lincolnshire Regiment qui avait été trouvé au point du jour à Arras. J'avais même d'ailleurs à l'occasion contacté l'ambassade américaine pour officiellement rendre un soldat américain, Francis Lupo, soldat donc qui avait combattu avec les armées des Apatistes et puis après qui était mort bien sûr sur le plateau de Soissons en 1918. Il repose aujourd'hui donc bien sûr dans le fameux cimetière d'Arlington. Michael Landolt, chaque nationalité à sa politique. Mais il faut mieux être australien, américain ou anglais que tirailleur sénégalais si on veut être réenterré ?
Je pense pas, puisque c'est une compétence qui, en France, dépend de l'Office national des combattants et victimes de guerre, qui est en charge donc la gestion de ces découvertes de corps, qui est en charge l'identification, et qui ensuite, avec l'aide des services des différents États, que ce soit britannique, américain, allemand notamment, qui vont ensuite prendre en charge ces découvertes et les réinhumer dans des cimetières, en fonction de la nationalité. Et l'Office national des anciens combattants a mis en place depuis quelques années une équipe avec une archéo-anthropologue qui est en train de faire une thèse CIFRE sur ces questions et qui intervient avec les méthodes de l'archéologue et qui forme les équipes des cimetières.
Pour sauvegarder cette mémoire, l'État a entrepris une vaste opération sur Verdun à l'aide d'un LIDAR, donc un avion qui enregistre des données de radar.
Le LIDAR maintenant est très développé en archéologie, dans toutes les disciplines, dans toutes les périodes et dans différents pays. On a mené une opération étroite ONF et DRAC, où on a pu donc prospecter toute la zone du champ de bataille de Verdun et mener un doctorat qui a été réalisé par Rémi Matos Marchardot, qui a réalisé donc une étude statistique sur tous ces vestiges, sur des traitements de données aussi qui sont très importantes, parce qu'on a des milliers, des millions de vestiges qu'il faut traiter. Et il a pu mettre en place des logiciels de traitement un peu automatisés avec du contrôle sur le terrain et comparer ce travail avec les cartes anciennes, les anciennes photos aériennes, pour un petit peu estimer qu'est-ce qui restait de ces champs de bataille. Par exemple, pour ce qui est de la bataille de Verdun de 1916, il reste très peu de choses finalement, quand on croise tous les éléments, puisque c'est les aménagements de 1917-1918 qui sont superposés aux vestiges du champ de bataille de 1916, qui vont ensevelir, cacher, détruire ces premiers vestiges. Et quand on visite la forêt de Verdun, on a l'état du champ de bataille en 1918, et pas la vision qu'avaient les combattants lors de la grande bataille de Verdun.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Michael Landolt, évoquons vos recherches, celles d'un abri souterrain allemand.
Il y a quelques années, j'ai fouillé en Alsace, avec Archéologie Alsace, une galerie dans le Sungau, le sud de l'Alsace, à Karspach, le Kilianstollen, un abri allemand qui s'était effondré en mars 1918, le 18 mars 1918, sur des soldats qui étaient en fait réfugiés dans cet abri, qui a été bombardé par une artillerie lourde française, et 21 soldats allemands avaient été ensevelis sous les décombres. Il y a eu une opération de sauvetage, ils n'ont pas réussi à sortir les 21, il y en a quelques-uns, à peu près une dizaine qui ont pu être sortis. Ces 21 avaient donc été portés disparus, ils avaient installé un monument à cet emplacement. Avec l'aménagement du territoire dans les années 2000, on a installé une déviation, une routière à cet emplacement. Le monument a été déplacé, on avait perdu l'histoire qui était derrière ce monument. On a réalisé donc des sondages archéologiques et une fouille. On a redécouvert cette galerie extrêmement bien conservée que j'ai appelée même le Pompéi de la Première Guerre mondiale, puisque le bois, le tissu, les cuirs, tout était extrêmement conservé et les soldats se trouvaient entièrement équipés. Quand on fouille une sépulture, les vivants vont enlever des objets, rajouter des objets, vont mettre en scène le mort. C'est une mise en scène. Là, on était vraiment face à la mort, le moment de l'instant de la mort, ce qu'on voit rarement, si ce n'est sur des sites de catastrophes, Pompéi, Herculanum, Midea, on a aussi Tollensee en Allemagne pour l'âge du bronze. Il y a d'autres sites où il y a des catastrophes de corps qui ne sont pas retrouvés dans une sépulture.
Et ce que l'on voit, c'est que tout n'est pas très réglementaire.
Effectivement, on a pu travailler sur des questions, comment étaient équipés ces soldats. On est en 1918, il y a un uniforme type. On a pu se rendre compte que les troupes sont encore équipées avec des vieux équipements. Alors, on peut le voir à travers la photographie. Il y a d'autres sources pour observer ces choses-là. Mais l'archéologie, là, vraiment, sur un corpus, à un moment, un instant T, nous permet de faire des études de ce type. Une photo, dans quel cadre la photo a été prise? Est-ce que c'est de la propagande? Est-ce que tout n'est pas mis sur la photo? C'est une époque où c'est le début du développement de la photo. Donc, on prend pas tout en photo. Là, vraiment, on a un corpus scientifique pour pouvoir étudier un ensemble.
Alors je crois que les soldats allemands avaient le droit de faire des photos sur le front, ce qui était strictement interdit dans l'armée française. En tout cas, cet abri souterrain, c'est un abri de grande capacité et qui était profond de 60 mètres, c'est ça? Vous avez donc descendu toutes ces surfaces?
Alors, c'est plutôt 60 mètres de long, une centaine de mètres de long, sur une profondeur d'à peu près 8 mètres en moyenne de profondeur, dans du leus, du sédiment qui a permis la conservation en profondeur, et pas de lumière, pas d'air, pas d'eau qui va vraiment préserver les vestiges de manière totale.
Alors, la recherche archéologique se doit bien sûr d'être multidisciplinaire, pluridisciplinaire. Qu'avez-vous entrepris sur ce Killenstollen ?
Alors, on a pu travailler, par exemple, sur le bois. La galerie était boisée, hein, comme une galerie de mine. On a pu faire de la dendrochronologie, donc étudier la datation de la coupe de ces bois. Donc, ça collait avec les archives, hein, hiver 1915-1916. Donc ça, on n'a rien appris de neuf, hein, avec l'archéologie, mais on a pu vérifier. Par contre, on a pu travailler sur d'où venaient ces bois, quelles étaient les essences utilisées dans ces bois. Épicéas, sapins, donc des résineux, parce que dans le travail de mine, on utilise plutôt du résineux qui va craquer plutôt que du feuillu qui va casser. On va pas l'entendre, on va pas anticiper sa casse. On va découvrir aussi qu'il y a beaucoup de bois qui étaient assez anciens, des arbres qui dataient du 15e, 16e siècle, qui avaient été nés à cette époque-là, qui ont été exploités, des bois assez anciens, qui ont été réutilisés. On va aussi voir un peu l'aménagement de cette galerie, comment les hommes sont adaptés à la vie en souterrain, comment ils ont pu se chauffer, comment ils ont pu s'alimenter. Par exemple, on a retrouvé un dépotoir à la sortie de cette galerie, avec tous les éléments de la vie quotidienne, notamment de l'alimentation, sujet qui m'intéresse beaucoup.
Vous avez aussi, bien sûr, du bois, vous nous en parliez, mais aussi des cuirs, et dans une moindre mesure, des tissus, du papier.
Oui, alors les soldats, pour le papier, avaient dans leur poche leur solbour, le livret militaire qui était conservé, alors comprimé. Alors on a congelé, parce que la meilleure méthode de préservation des papiers anciens, un peu humides, c'est la congélation. Pour l'instant, ils sont à l'état de congélation, toujours aujourd'hui. On n'a pas encore mené de travail de restauration sur ces carnets.
Quelle a été la perception en Allemagne, et des Allemands bien sûr, sur vos recherches ou ce type de recherche réalisée en France sur leurs soldats?
Quand on a réalisé la fouille, il y a eu une très grosse médiatisation, comme on peut s'en douter, dès la première découverte de corps. On avait la liste de ces 21, et les Allemands, les journalistes allemands, ont publié la liste de ces 21 soldats allemands. Et on a eu une petite nièce d'un de ces soldats qui est rentrée en contact avec nous. Petite nièce qui était professeure d'histoire à la retraite et qui connaissait l'histoire de son grand-oncle dans la mémoire familiale qui avait été rapportée. Et on a pu rentrer en contact avec cette personne qui est venue nous rencontrer, qui a apporté des photos de ce soldat, qui a pu nous parler de ce soldat aussi. On n'a pas l'habitude en archéologie de rencontrer des gens qui peuvent parler de le corps qu'on vient de découvrir. Et c'était plutôt un intérêt sur cette découverte côté allemand. On a eu vraiment une très très grosse médiatisation côté allemand. Alors les Allemands, la Première Guerre mondiale, c'est pas sur leur territoire. Le front, c'est en Alsace-Moselle, en France, en Belgique. Sur le territoire actuel, il y a très peu de traces de cette Première Guerre mondiale. Il y avait des camps de prisonniers. Il y a eu des aérodromes, il y a eu des choses, bien entendu. Mais c'est surtout à l'étranger que se trouvent, en Russie aussi, en Pologne, les traces de cette Première Guerre mondiale. Et on a fouillé à peu près au moment du centenaire, et il y avait un regain sur cette période. Alors j'ai fait aussi un travail, c'était en parallèle à une exposition qu'on avait réalisée à Strasbourg sur l'archéologie de la Grande Guerre, un travail sur, j'ai demandé aux archéologues, apportez-moi de la région une photo de votre ancêtre combattant de la Grande Guerre. Et ceux qui avaient des ancêtres, nous les Alsaciens-Mosellans, c'était assez simple. J'avais l'impression qu'il y avait une histoire qui était un peu plus présente chez les personnes. Les photos venaient plus facilement. Ceux qui avaient des combattants dans l'armée française, les gens me disaient, moi j'ai rien, j'ai pas de documents. Ils ont mis du temps à rechercher. On a l'impression que cette mémoire de la Première Guerre mondiale, elle est un peu plus lointaine en France que côté allemand. Côté britannique, là il n'y a pas photo, pardon. Les Britanniques connaissent tous l'histoire de leurs ancêtres. Il faut voir dans le nord de la France tous les quarts de touristes britanniques qui viennent, qui connaissent exactement ce qu'a fait leur ancêtre, à quel endroit il a combattu. Il y a même des guides qui font des voyages thématiques adaptés à l'histoire d'un parcours de soldat. Côté australien, côté canadien aussi, c'est aussi très important cette Première Guerre mondiale. C'est aussi des États qui sont créés à ce moment-là.
Qui fouillent en France aussi.
Et qui fouillent en France, oui. Il y a eu une grosse fouille à Fromelles, il y a quelques années.
Exactement.
il y a eu des grosses opérations par des pays étrangers en France.
Michael Landolt, dans sa globalité, l'archéologie nous permet-elle réellement de comprendre ce qu'il en est, ce qu'il s'est passé, ou est-ce plutôt une illustration matérielle en appui d'une histoire plus vaste ?
Alors, l'archéologie doit créer de l'histoire. Si c'est juste de l'illustration, c'est pas de l'archéologie. Il faut qu'il y ait une problématique, un questionnement, et que la démarche permette de répondre à une question pour apporter de la connaissance historique. Pour moi, un archéologue, c'est un historien. Peut-être Laurent Livier, c'est des choses qu'il développe avec l'archéographie, où en fait, c'est juste de la description des choses. Pour moi, l'archéologue, vraiment, c'est un historien. Alors, il y a des choses où l'archéologie va jamais rien à nous apprendre, bien entendu. Où il y a tellement de sources que là, c'est pas un aspect où on va pouvoir développer. Il faut, et même l'archéologie des conflits contemporains, aujourd'hui, a su trouver ces problématiques. Il y a 30-40 ans, c'est des archéologues passionnés qui travaillaient sur d'autres périodes, surtout des proto-historiens d'ailleurs, qui sont intéressés, en fouillant un site plus ancien, à des vestiges de ces guerres. De manière, avec le hasard, donc ils ont développé des choses avec le hasard, et avec le temps, les découvertes, on en a fait de plus en plus de fouilles, avec aussi la création d'une véritable discipline, une véritable formation. Certaines universités maintenant, je pense à Strasbourg, il y a aussi à Nantes, il y a aussi à Montpellier, il y a différentes universités où on développe un petit peu cette dans la formation des étudiants en archéologie, l'archéologie des conflits. Et cette discipline qui naît a vu la naissance de problématiques définies. Alors, on avait l'anthropologie, la fouille des sépultures qui était, vous avez évoqué la fouille
d'Alain Fournier,
Alain Fournier tout à l'heure. Ça, c'était assez simple, hein. L'archéologue, fouiller les tombes, c'est quelque chose. Et comprendre les pratiques funéraires, comprendre la société à travers les sépultures, c'est quelque chose que l'archéologue sait très bien faire. Maintenant, depuis, d'autres archéologues se sont intéressés à ces thématiques. Et j'ai par exemple développé l'alimentation du soldat. Que mangeaient les soldats dans les tranchées? Quel était leur menu? Dans quelle vaisselle les soldats mangeaient?
Oui,
plein de questions.
L'alimentation sur le front, c'est aussi tendre, par exemple, à l'autosuffisance. Je pense à cet œuf de poule qui a été découvert donc sur une fouille dans le Haut-Rhin. C'était bien pour avoir récupéré des œufs.
Alors effectivement, les soldats vont, pour améliorer leur quotidien, vont chasser, vont élever des animaux. Alors pas forcément dans la première ligne du front, hein, peut-être dans les lignes un peu plus arrière ou dans les cantonnements. Ils vont élever des poules, des lapins. Ils vont améliorer leur quotidien. Côté allemand, il y a des très gros problèmes de viande, de manque de viande, de pénurie, et les soldats doivent pallier ces pénuries. Alors, on a, au Kienstollen, on a retrouvé, dans le dépotoir, un squelette de chèvre complet qui n'avait pas été consommé. L'hypothèse que j'en ai faite, c'est pour le lait, c'est plus facile d'avoir une chèvre dans les tranchées qu'une vache. Bien entendu. Alors, il faut faire aussi attention parce que les soldats aussi ont des mascottes. Mais les mascottes de soldats, c'est plutôt des béliers, des boucs, des animaux assez virils, avec des belles cornes, des beaux attributs, qui même dans des défilés va défiler avec la troupe. Là, la chèvre qu'on a fouillée, c'est une espèce disparue, la chèvre d'Alsace, qui n'avait pas de cornes.
Justement, la vie quotidienne du combattant, on la retrouve surtout à travers des dépotoirs avec quantité d'objets en verre.
Oui, alors on a toute l'industrie qu'on va retrouver dans cette alimentation, la verrerie, les contenants en verre, les contenants aussi en aluminium, hein, les boîtes de conserve, aussi en faïence.
Avec de l'idéologie, hein, visiblement.
Par côté allemand, il y a vraiment énormément
de
patriotisme, de propagande. Quand le soldat, il mange, il voit l'empereur, il voit Hindenburg, il voit la croix de fer, il sait pourquoi il combat. Côté français, c'est peut-être un peu moins présent. Parce qu'on est dans une démocratie, hein, on est dans un empire côté allemand. Il y a une autre perception des choses. Quand on pense à Banania, par exemple, côté français, c'est aussi quelque chose de patriotique avec les troupes d'Afrique qui sont là pour aider la France.
En tout cas, on mange beaucoup de condiments et beaucoup d'assaisonnement et de moutarde. Donc, visiblement, ça a laissé beaucoup aussi de peau. La vie quotidienne du soldat, il n'y a pas que l'ennemi que l'on doit tuer. Le temps et peut-être l'ennui aussi.
La guerre, on vient de le voir, pour faire la guerre, il faut être nourri, déjà, premièrement. Et le soldat, il combat pas toute la journée, il combat pas tous les jours. Certains estiment même deux tiers du temps, voire même plus. Le combat, c'est moins d'un tiers, même 10%. Ça dépend. Il y a des études qui ont été faites par des spécialistes. C'est pas mon cas pour cette question. En tout cas, le temps libre, l'attente est très très importante. Et il faut que le soldat s'occupe. Donc il va s'occuper, il va fabriquer des objets. Par exemple, on pense à tout l'artisanat de soldats.
L'artisanat de tranchée, oui, bien sûr.
L'artisanat de tranchée. Alors, ce qu'on appelle l'artisanat de tranchée, dans 90%, c'est pas d'artisanat, c'est de la production industrielle. dès qu'on travaille ça avec un œil d'archéologue, post-guerre ou pendant la guerre, parce que le soldat, il pouvait commander. Il avait des catalogues, il commandait une douille avec marqué le nom de sa femme. Il pouvait commander une bague, il pouvait commander. Il y avait de la production à l'arrière de cadeaux que le soldat pouvait offrir à sa famille.
Et puis la pratique superstitieuse ou prophylactique était jusqu'à présent peu documentée. Vous faites une sorte d'archéologie du gris-gris.
Voilà, quand on peut faire de l'archéologie, retrouver de la société, des pratiques sociales à travers l'archéologie, là on entre vraiment dans l'histoire. Au Killenstollen, les soldats, donc sur les 21, j'en ai, je crois, 3, qui ont sur eux un chapelet qui est associé à une balle française tirée. Donc là, c'est pas juste un soldat qui a une petite idée complètement saugrenue dans sa tête. On a une pratique qui va être dans un groupe. On va créer des petites superstitions pour conjurer le mauvais sort, pour éviter que la balle française vienne le tuer. On va porter ça. On le savait, par exemple, pour les monnaies côté français, les soldats mettent des Napoléons dans leur poche parce que ça peut dévier une balle. Il y a des cas où on voit hein, des balles qui ont été bloquées par des monnaies.
Et dans la fosse d'Alain Fournier, il y avait ces balles qui étaient emballées dans du papier pour visiblement pas faire de bruit.
Exactement. Et aussi des produits qu'ils achetaient dans des boutiques. Il y avait plein de boutiques pour soldats, des poudres de perlimpinpin, comme on peut dire. Là, au Killenstollen, c'était du Goldfasser, donc de l'or qui avait été distillé pour faire une boisson qui servait à, soi-disant, donner de la force aux soldats. Côté français, on a fouillé à Burnout, dans le sud de l'Alsace, un camp français. Et là, on avait des petites fioles avec des faux textes écrits en chinois, qui étaient vendus dans des boutiques avec des produits miracles chinois. Pour le soldat.
Michael Landalt, aujourd'hui vous vous penchez sur un thème proche, l'archéologie des camps en France, ceux qui débutent en 1938 avec les républicains espagnols, jusqu'aux années 60 avec les harkis, une histoire peu glorieuse de la France, en quelques mots, nous y reviendrons prochainement.
Alors effectivement, on pense tout de suite les camps, on connaît le camp de Natzweiler-Struthof que vous avez pu évoquer dans une autre émission, hein, qui avait été implanté par les Allemands, mais les Français avaient installé des camps en France bien avant la Seconde Guerre mondiale. À partir de l'arrivée massive d'Espagnols, hein, puisque c'est la retirada, c'est quand même l'équivalent d'un département français qui arrive en quelques jours sur le territoire français. La France ne s'est pas du tout préparée à ça. Que faire avec tous ces réfugiés? Et on va commencer à installer des camps, d'abord sur les plages, de manière un peu simple. Et puis on va commencer à organiser ça avec des baraquements en bois qui vont ensuite servir à installer aussi, avec le début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, les réfugiés allemands, les intellectuels allemands, les juifs allemands qui étaient venus se réfugier en France, qui ont été donc parqués dans ces camps. Puis avec le régime de Pétain, les juifs, les indésirables, comme on les dit.
Les tziganes et autres.
Les tziganes, les communistes et enfin les harkis. Pour les plus récents et récemment, on a dans l'Ain, il me semble, la protection au titre des monuments historiques d'une baraque de ces harkis qui est rentrée dans le patrimoine national au titre des monuments historiques.
Michael Landolt, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Alexandra Malka, à la technique Raphaël Rousseau et dans les studios de France Bleu Lorraine Nord, Iliès Camarty. Et bien sûr, avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.